Okay. 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 On va la faire courte. Off court. Le podcast des basketteurs. Ah bon, ça se bouscule sur le terrain, sur le banc et aussi à l'extérieur. Découvre la face cachée du basket à base de clash entre les joueurs, coach, bizutage rookie, vision politique et sociétale, et j'en passe. Off court. Présenté par Smooth Smooth, là, qui vous montre qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur et qu'il a des choses à dire. J'espère que t'es ready pour Off Court. 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 Off Court.
Ouais, 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 ouais. Salut tout le monde. Bienvenue sur Off Court, le podcast qui parle balling. Aujourd'hui, nouvel invité, nouvelle discussion sans filtre. J'ai à mes côtés le point guard de Nanterre 92. J'ai bien entendu parler de Benjamin Sen. Comment vas-tu, Benjamin?
Ça va tranquille, ça va super.
La forme, petit break là?
Ouais.
On est bien là?
Ouais, petit break là, C'est-à-dire que le corps, et surtout mon genou, là, dernièrement, il en avait bien besoin, donc ça fait pas de mal. Ouais.
Je veux bien le croire, je veux bien le croire. Bah, merci tout d'abord d'avoir répondu présent à notre invitation.
Avec plaisir, avec plaisir.
Donc voilà, pendant un peu plus d'une heure, on va parler un peu de toi. Bon, on va avoir une discussion égoïste un peu parce qu'on va parler de toi et de ton parcours afin de, que ça fasse un peu écho à toute notre communauté basket qui pourrait se retrouver dans chacun de vous au travers de vos parcours, tout ça. Donc c'est vraiment un moment de partage et un moment un bon petit moment, quoi.
Ok.
Donc voilà, on va commencer tout de suite, on met les pieds dans le plat tranquillement. On va parler un peu de ta carrière. Bah, ça fait pratiquement 10 ans maintenant, si je ne me trompe pas.
C'est ma 10e année.
Ah, ouais. Tu vois, je calcule bien les trucs.
Je suis dans la 10e là.
10 ans et on a l'impression. Et tu fais déjà office d'anciens.
C'est à 28 ans.
À 28 ans, tu fais office d'ancien. Donc, comme quoi, t'es vite rentré dans le monde professionnel. Et en commençant par dédicace au Stade Montois. Hein. On peut pas. Il y a toujours un début quelque part. Et on peut pas partir en commençant par le club pro sans parler du Stade Montois.
Ouais, j'ai même fait Langon avant. C'est la ville où je suis né.
T'as fait Langon carrément.
Ouais, c'est un petit peu en dessous de Bordeaux.
C'est à 30
de Bordeaux. Et ouais, j'ai commencé là-bas petit, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai commencé à faire du sport, en gros. Et c'est mes parents qui ont dit, bon, ben, faudrait qu'il fasse un sport. Et je pense que comme beaucoup d'enfants à l'époque, j'ai fait du foot aussi.
Ouais, bah.
J'ai fait du foot à côté, je faisais foot, basket. Et quand il a fallu choisir un peu, à un moment donné, les samedis, les matchs qui commençaient à être aux mêmes heures, enfin, on ne pouvait plus être aux deux endroits.
Les entraînements quand il fait froid.
C'est ça. Et puis, donc, j'ai choisi le basket parce que je pense qu'il y a deux choses qui m'ont fait choisir. C'est déjà un peu l'état d'esprit entre le basket et le foot qui était complètement différent et je préférais le basket. Et la deuxième, ça c'est un petit peu plus l'anecdote, c'est une notion d'un entraînement de foot en hiver dans le sud. Alors pourtant, c'est que je me rends pas très froid, moins froid qu'à d'autres endroits, mais on était dehors sur le terrain, il faisait froid et je suis tombé pour un truc comme ça. J'avais pas de gants et sans faire exprès, il y a un de mes coéquipiers qui a marché sur la main.
Avec les crampons?
Avec les crampons. Et jusqu'à la fin de l'entraînement, il est resté au moins 30 minutes, je ne sentais pas ma main. Je suis rentré chez moi, chez ma mère, je me cherchais, je ne sentais toujours pas ma main. Je suis rentré, je ne sentais pas ma main. La première chose que j'ai fait, j'allais mettre ma main sous l'eau chaude. J'essayais de sentir mes doigts. Je sentais rien. J'ai dit, pour moi, le foot est fini. Moi, je veux un sport où il fait bon et je veux jouer dedans.
Confession par confession, j'ai commencé par le foot. Et pendant les périodes hivernales, c'était juste dingue. Bah, on te dit, pour courir, pour avoir chaud, il faut courir. Mais t'as froid, t'as pas envie de courir.
Non, c'est pas vrai.
Et donc, c'est un cercle vicieux. Et je te dis, je vais te le dire, à la fin de l'entraînement, je pleurais parce que j'arrivais pas à en retirer mes crampons. J'avais tellement frappé, je pleurais. C'était mes coéquipiers qui m'aidaient à les enlever.
Ça, j'ai connu, je te crois, parce que j'ai connu aussi. Donc, ouais, non, c'est comme ça que j'ai commencé le sport, et surtout que je suis parti dans le basket. Voilà, je préférais ça, du coup, je commençais à Longo, et ouais, après, comme tu as dit, j'ai fait Mont-de-Marsan, du coup. À la base, c'était. pardon. C'était pour l'espoir.
Pour le pôle.
C'est ça. c'était. Alors, les âges, je sais plus, c'était pour la. Quatrième et troisième.
Ouais, c'est à peu près ça.
Donc, classe de quatrième, troisième. Ouais. Donc c'est. Alors les âges, je ne sais plus exactement.
Ça fait du 13-14 ans.
Voilà, donc j'ai fait ça. Et donc en parallèle, du coup, pour faire pour l'espoir, c'était mieux jouer dans une équipe qui était minime France. Alors moi, je veux dire minime, cadet, machin, parce que les U quelque chose, moi, 15, j'ai perdu. 17, j'ai... Non, moi, j'étais plus, j'étais pas là-dedans.
Tu,
moi,
tu peux parler en minime, cadet. Ouais, je ferai la traduction si tu veux.
Oui, j'étais en minime. Du coup, il fallait faire les minimes France, les minimes nationaux. Donc, c'est pour ça que je suis à la Mont-de-Marsan. Ça me voit, je voulais faire en minime France à ces potes-là. Et, ouais, j'ai fait mes 2 ans là-bas, ensuite repéré par Nancy. Donc j'ai fait des essais là-bas et j'avais vraiment adoré. Je ne savais pas, il y a un truc je pense qui m'a fait aller là-bas peut-être plus qu'ailleurs, c'est déjà l'accueil que j'ai eu juste parce que j'avais fait juste 3 jours de test.
Ouais.
Et l'accueil que j'avais eu là-bas, à l'époque c'était mon gars sûr de, encore aujourd'hui, c'est Abdel Silla, le sujet qui m'avait accueilli. Ouais, qui m'a accueilli Nancy comme ça pour les 3 jours, qui m'avait montré le centre de formation, expliqué comment ça fonctionnait, aller à la salle, les vestiaires.
En plus, ça, à Nancy, ce qui est bien, c'est qu'on habite dans le gymnase, quoi.
Ah oui, ça, là, pour faire plus près, c'est compliqué. Hein, là, c'est, quand t'es au centre de formation à Nancy, tu peux pas faire plus proche pour la salle. Ouais, elle m'avait un peu tout expliqué et tout, et j'avais adoré, je sais pas pourquoi, je me sentais super bien. Pendant ces 3 jours-là, je me sentais super bien, donc voilà, c'est ça qui a fait que ensuite je suis allé à Nancy après mon enfant.
On reviendra sur ton parcours à Nancy, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à se dire, à dire et à partager. Ensuite, tu fais 3 ans à Gravelines.
C'est ça.
Pour quelqu'un du sud, tu restes beaucoup dans le nord, hein. Dans le nord et dans l'est.
C'est ça, ouais. C'est ça, ouais, les 3 ans. Bah, du coup, ça fait 2 ans et demi, vu que ça a été l'année Covid, la dernière.
Voilà, exactement.
On s'arrêtait en février, enfin, ou mars, ou enfin, bref, on s'arrêtait par ce fameux virus. Mais ouais, donc 2 ans et demi là-bas, c'est. Comment. J'ai pas le mot là tout de suite, mais c'est. C'est un peu l'émancipation, un peu. Là, j'ai quitté un peu le cocon de Nancy.
T'inquiète pas, tout ça, c'est prévu. Là, on va juste lister les clubs auxquels t'as été et on va revenir à l'origine. T'inquiète pas.
Ok, ouais. Donc, Gravelines, 2 ans et demi.
Et après, c'est Boulazac.
Gravelines, 2 ans et demi, Boulazac, 1 année.
Et Nanterre.
Et Nanterre, maintenant, là, pour ma deuxième année. Là,
ta deuxième année, exactement.
Au jour où l'on parle.
Ouais, c'est ça. Donc, on va revenir un peu à l'origine. Tu arrives à Nancy et rapidement, on te définit comme un prospect.
Ouais.
Rapidement, ouais, on te définit comme un prospect. Et toi, à ce moment-là, tu es dans quel état d'esprit?
Honnêtement, même déjà quand je suis arrivé à Nancy, je ne m'étais pas dit tout de suite, la première année, dit je vais finir pro ou je dois finir pro. J'ai des. J'étais plus là en me disant, je vais encore progresser. Et de toute façon, mon père, surtout, m'avait mis vraiment un point d'honneur au fait que c'était quand même les études et le basket. Mmh. Et pas forcément le basket avant. C'était. On va dire que voilà.
Il y avait un contrat moral avec ton père.
Voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà, après, il fallait que je sois le meilleur. Que je continue à progresser au basket, que je sois le meilleur possible. Voilà, que je donne tout ce que j'ai, tout ce que je pouvais donner. Mais voilà, c'était. Ne néglige pas des études. Voilà, c'était vraiment ça. Parce que ça pouvait être peut-être qui. Peut-être même au jour d'aujourd'hui, où les jeunes ne plus. Alors, avec plein de trucs, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais avec plein de trucs peuvent arriver où on peut les voir très jeunes leur dire ouais, lui, il va être pro, par exemple, ou lui, il peut être pro. Et
la courbe d'évolution, et du coup, ça
peut. Peut-être, mais du coup, c'est ça qui peut faire que, bah, comme on nous dit ça, on se met en tête, et du coup, les études, on dit, ah, on met ça de côté, on, un peu genre, bon, de toute façon, comme il y a moins de choix pro, bah, les études, je laisse un peu à côté.
Ouais.
Et du coup, comme c'est un peu comme tu es contre moral avec mon père, bah, c'est pour ça que quand je suis arrivé, j'étais pas forcément dans l'état d'esprit, même si on dit, ouais, ça prospère et moyen, bah, et c'était quand même pour qu'il arrive dans ses études.
Ouais,
c'est un peu ça, l'état d'esprit au début.
T'arrives avec un cadre, parce que c'est une bonne chose.
C'est sûr, c'est ce qu'il fallait. Enfin, ouais, non, j'ai un truc, j'ai la gorge sèche depuis quelques jours, donc si je pousse un peu, désolé, je suis un peu
dérangeant. Mais voilà, on est à la maison, il y a juste un truc qui enregistre, on parle basket tranquille.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, c'est un peu ça, t'as des trucs quand je suis arrivé à Nancy. Parce qu'après, à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de... À l'époque, j'ai l'impression que je suis super vieux, mais pas comme ça. Mais c'est quoi, voilà, au moment où je rentre centre de formation, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux, Instagram, tout
ça. Ça
commençait juste.
Ça commençait juste.
Donc, il n'y avait pas tous les trucs pour montrer à chaque fois peut-être des actions que j'aurais pu faire, des trucs comme ça. Il n'y avait pas tout ça encore.
Mais il y avait la presse spécialisée. La presse spécialisée qui parlait un peu des jeunes de certains centres de formation qui toquaient rapidement aux portes des pros. Et ton nom a été cité plusieurs fois. Je parle des portes des pros, mais à certains moments, on parlait même de la Grande Ligue.
Oui, c'est bon. Franchement, comme il n'y avait pas les... tous les réseaux, tout ça, là où on peut regarder voir tous les articles et tout ça, tous les sites, c'est vrai que j'en voyais peut-être pas beaucoup. Donc je t'avoue que je pouvais pas... J'étais plutôt dans la bulle à Nancy, du coup, et c'était beaucoup de ça que j'entendais parler, bah, j'étais là-bas, c'est normal. Mais c'est vrai que après, à part par mon argent, un peu, je pouvais entendre parler, mais pas tant que ça, pour être honnête. Pas tant que ça. Et bah, surtout qu'en plus la première année à Nancy était d'un point de vue individuel très difficile. Honnêtement, c'était très difficile. Je pense, bah, le fait de partir loin de chez soi, parce que finalement mon enfant c'est pas si loin de chez moi, donc ça allait.
Ah, mais
de
là,
partir
c'est...
très loin comme ça, en étant assez jeune, parce qu'au final j'avais que 15-16 ans, et je partais comme ça. Très loin, dans une vie où au final j'avais aucun repère, même si en y allant comme ça 3 jours, j'avais trouvé ça bien, tu vois,
trois jours c'est différent d'une année, hein.
C'est ça, et donc du coup c'est vrai que dès le début c'est assez dur, et bon, au niveau scolaire j'essayais de me débrouiller comme je pouvais, comme j'ai toujours fait. J'ai jamais été le meilleur des élèves, mais voilà,
j'ai assuré le
maximum. C'est ça. Et c'est vrai que basket, du coup, c'était très très dur. Là, je le dis en ayant plein d'expérience, mais mentalement, c'était sûrement pas facile. Comme ça, de partir, de plus avoir certains repères, de plus avoir. Voilà, c'est pour se refaire des amis au final, parce que je connaissais personne dans la ville.
Ah, il faut trop construire.
Et au lycée, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ouais, c'est très difficile ma première année. Ça doit être là, peut-être la première fois que j'en parle comme ça ouvertement. C'est vrai que la première année, même niveau basket, ça a été très dur. C'était assez compliqué. Il m'a fallu cette année-là pour trouver mes marques un peu, que ce soit dans le club, au final, dans le centre de formation, avec tout le monde. Mais cette année, ça m'a forgé quand même. Ça a été dur, mais comme je n'ai pas abandonné, j'ai continué quoi qu'il arrivait, ça m'a un peu forgé. Puis la deuxième année, c'est là où vraiment niveau basket j'explose. J'explose vraiment sur ma deuxième année là. J'ai réussi à trouver de la confiance et tout ça. Et donc ça m'a vraiment fait exploser sur cette deuxième année. Et le truc, tout se passe super bien. Dans ma deuxième année, je commence à m'entraîner. J'ai fait quelques entraînements avec les pros déjà quand il manquait des joueurs. Je vais faire 2-3 entraînements. Alors, j'étais comme un fou.
C'était
comme un fou.
Il y avait du beau monde en plus à ce moment-là.
Il y avait du monde. Ah ben, ça peut être une première anecdote, mais une deuxième anecdote du coup, où que je me souviens, mon premier entraînement que j'ai fait avec les pros, c'était pas du tout prévu. C'était un mercredi après-midi, comme normalement un ancien, le mercredi après-midi, le centre de formation s'entraîne avant les pros.
Ouais.
Donc je fais l'entraînement, je rentre dans ma chambre. Pour moi, ma journée normalement était finie, j'avais juste l'étude le soir, tout ça. Et après l'entraînement, j'étais dans ma chambre. Et dans le couloir, j'entends le directeur du centre de formation, Pierre Verdière, qui était coach espoir aussi, qui passe et qui va dans la chambre, je crois que c'était de Kevin Thalière à l'époque, qui était meneur espoir et qui était aussi avec les pros. Et on lui dit, ben, il y a besoin de toi à l'entraînement des pros. Et que Kevin, je crois, lui répond quelque chose. Enfin, il pouvait pas y aller en tout cas. Je suis sûr de ce qu'il répond, mais il pouvait pas y aller. Et du coup, Pierre, il marche comme ça. Il passe devant ma chambre et ma porte était ouverte. Le chambre, il regarde, il fait. À peine des pauses dans un temps pour l'entraînement, donc il va. Et moi, dans mon petit corps, je suis pas le plus costaud au lot, mais dans mon petit corps tout maigre, je suis arrivé à la salle, ils m'ont donné une tenue d'entraînement. C'était les débuts des années 2000, N1 Mixtape. J'avais un short qui descendait jusqu'au milieu des tibias.
Et un maillot
qui me tombait jusqu'au genou. Mais je pense pas qu'il y en avait, c'était un entraînement, donc il devait pas y avoir photo. Mais je suis tombé avec un short au milieu des tibias et un maillot qui descendait pratiquement jusqu'au genou. Oh, c'était mémorable. Je courais, ça faisait comme moi, j'ai l'image de Obled, comme au Sénégal, moi, des gens sur les scooters avec des gros t-shirts.
Avec alors, les comme, gros t-shirts comme là, qui tombent jusqu'au genou.
Eh ben, ça me faisait pareil. Ça m'a un parachute accroché à moi. C'est la petite anecdote, c'était mon premier entraînement pro, c'était ça. Mais un maillot beaucoup trop long. Et je suis parti à l'entraînement comme ça. Mais j'étais tellement content d'y aller que je m'en fichais complètement.
Ah, mais bien. Clairement,
mon occasion avec les pros,
tu l'as saisi.
J'y suis allé. Non, c'était ouais, mon premier entraînement pro, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, je me souviens, il y avait des Steve Dwayne Joya qui jouait, John Lineman qui était là. Enfin, c'était assez fou. Franchement, c'était très dur de passer le milieu de terrain.
Ah, Si t'es meneur. Si t'es meneur,
c'était
là.
L'enfer. Là.
Si t'arrives à passer tout ça, là.
Même si je perdais le ballon, franchement, je suis juste content d'être là.
Ah, bah, je veux bien
le croire. Je suis content de me voir. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait... c'est vrai qu'à la deuxième année, j'avais tellement pris confiance en moi et tout ça... Après la première année compliquée que... Et puis c'est vrai que même durant cette... Si je reviens vite fait en arrière, même durant cette première année super compliquée, j'avais toujours Abdel qui était toujours là à me dire lâche pas, tu peux y arriver. Il me poussait tout le temps en fait. Abdel, c'est vrai qu'il était toujours là à me pousser parce qu'il voyait que je pouvais y arriver. Quoi. Mm-hmm. Déjà, et du coup, c'est vrai que c'est un état d'esprit qui m'est resté.
C'est marrant que tu dises
voilà,
ça.
Au même,
c'est marrant au même, que tu dis...
même quand c'est difficile, c'est vas-y, pousse quand même, parce que c'est toujours possible.
C'est marrant que tu dises ça parce que j'étais dans les tribunes contre Limoges.
Ouais.
Et t'avais cette attitude-là avec votre jeune là qui est arrivé, qui a fait un très très gros match. J'ai oublié son prénom. J'ai pu échanger avec Philippe Da Silva qui me disait qu'il arrêtait pas de prendre dans la figure parce qu'il se retrouvait pas dans l'effectif. Ah zut, votre ailier, le black là.
Ah, Sadio.
Sadio.
Ouais.
Et je te trouvais très très proche de Sadio et c'est marrant que tu dis ça parce que ça, c'est un peu, tu transfères un peu ce qu'a pu faire Abdel avec toi quoi.
Mais ce que j'allais dire, ouais c'est ça, c'est un peu en fait que lui quand t'es... Voilà, comme il sentait et même surtout Pierre Verdière aussi lui avait dit que voilà, il y avait moyen que je puisse aller loin dans le basket, quoi, faire une carrière. Et du coup, c'est vrai qu'il me poussait tout le temps et même des fois, parce que c'était souvent même Pierre Verdière, d'ailleurs, quand il coachait le centre de formation, qui était toujours derrière moi aux entraînements, même quand ma première année c'était dur, il me criait dessus tout le temps. Et quand t'es jeune comme ça, que tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'il a toujours me coller, j'ai l'impression que j'ai une. Non, c'est même pas ça, c'est que je me dis, j'ai une cible dans le dos, et dès qu'il fasse un truc, il en profite et il tire le dos, c'est toujours moi. Et c'est là où il y a une phrase, je me souviens, c'est la deux. Il y a deux phrases que Abdel m'avait dit. La première, je pense qu'elle était la plus importante, il me disait que s'il est toujours sur toi à te crier dessus, c'est qu'il croit en toi et qu'il sait que tu peux y arriver. Donc
exactement.
Il veut te pousser et il veut te pousser pour que tu y arrives. Et ça, cette phrase, elle m'est toujours restée. Il m'a dit, il faut que tu ne lâches pas, c'est peut-être dur parce qu'il crie dessus, mais c'est parce qu'il croit en toi. Et il me dit au contraire, le jour où il ne te dit plus rien,
là tu peux t'inquiéter.
Là, tu t'inquiètes.
Et t'inquiète-toi
parce que dans mon avis, c'est qu'il est en train de laisser tomber et qu'il s'en fiche de toi complètement. Et ça, c'est la première phrase. Et après, même quand c'était dur, tout ça, et il me disait que t'as des qualités, du coup, on disait que t'as des qualités certaines, et il me disait, do you. Juste fais-toi. Fais ce que t'as à faire, et ce sera parfait.
Putain, ça, ça, ça. C'est vrai ça, que c'est des conseils qu'Abel de m'a fait.
Qui font résonance dans ta tête et tu les gardes jusqu'à la fin de tes jours. Hein.
Ah ouais, c'est, là c'est même pas un coach, c'est Abdel qui m'avait dit ça.
Ah, Abdel, pardon.
Je me souviens. Ouais, non, c'était Abdel.
Abdel avait cette certaine sagesse quand même. Hein.
Ah ouais, ouais, mais depuis là, ça, le centre de formation, quand j'étais, ma deuxième année, du coup, on était. Ma chambre était juste en face de la sienne.
D'accord.
Quand il y avait juste le couloir, ma chambre était juste en face de la sienne. Et on partageait toujours tout. C'est comme moi je partais à l'école, parce que moi du coup j'étais au lycée, quand je partais à l'école, ça, je laissais ma chambre ouverte parce qu'il pouvait passer prendre mon ordi pour regarder à l'époque les résumés d'NBA. Il venait regarder les résumés d'NBA. Très souvent, ça nous arrivait de. Deux matchs de proie après les vendredis. À l'époque, c'était le vendredi soir les matchs à la télé.
C'est ça.
Et voilà, c'était soir. Avec tout le centre, on regardait les matchs et tout ça. Et puis avec Abdel, ça nous arrivait. Souvent les samedis soirs après les matchs soir, de rester éveillé. Et s'il écoute ça, il faudra que je lui envoie le podcast parce qu'il faudra écouter tout ça, il s'en souviendra, il va rigoler. Mais on prenait toujours, il y avait un magasin match, c'était un magasin un peu comme Lidl, et tout comme ça, qui était juste à côté. On prenait toujours les mêmes tartelettes à la fraise. Et on se posait devant les matchs NBA la nuit après de manger.
Vous tapiez ça.
Tout le temps, c'était notre truc, on faisait ça très très souvent. Et puis on regardait toujours les matchs ensemble. C'est pour ça qu'on a été assez proches au final. Quand moi j'étais à Nancy, on était proches que. Pardon. On était assez proches et voilà, c'est que tous ces conseils m'ont beaucoup aidé dans déjà à passer les moments où j'ai pu avoir à Nancy, je ne suis pas. Et ensuite pour la suite, ça sert,
ça fait du bien et, ouais. Et c'est ce qui construit les souvenirs.
Le fou.
Construit les souvenirs. Et là tu te stabilises. Troisième année à Nancy, l'éclosion, non?
Ça se passe plutôt bien. Ma troisième année là-bas, normalement j'avais encore une année calée. Mais je jouais beaucoup moins avec les cadets, du coup j'étais vraiment intégré avec les espoirs à fond. Parce que même, il faut savoir que dans ma première année à Nancy, j'avais commencé à être sur le banc en espoir et à jouer quelques minutes des fois. Ça m'est arrivé.
Ah, on t'a mis dans le projet.
La deuxième année, j'ai fait espoir et cadet. Là, je faisais vraiment les deux tout le temps. Et la troisième année, c'est vrai que j'ai commencé un peu avec les cadets en Cadet de France. Alors, je ne saurais plus te dire exactement, mais je crois que peut-être que la première phase a été un petit peu compliquée en cas de défense, et du coup, c'est vrai qu'après, j'ai commencé à faire des fois à faire pas du tout les matchs, ou à moins jouer en cadet, ou à tout se concentrer sur les espoirs, du coup, sur ma troisième année.
D'accord.
Qui se passe au final, qui se passe plutôt, voilà, normal. C'est un peu la suite de la progression que j'avais eue depuis 2 ans maintenant.
Et donc, la dernière année, celle où normalement.
Je veux
dire que c'était censé être l'éclosion.
Ouais, c'est ça. Ma quatrième année, du coup, à Nancy, c'était là, que espoir. Que espoir et.
Et pro.
Et entraînement avec les pros, du coup. Alors d'ailleurs, pouvoir faire un entraînement avec les pros, ça a été conditionné.
Ouais.
À la fin de ma troisième année, du coup, dernière année du lycée, le bac. Et comme je disais par rapport aux études de l'IVA avec mon père, là c'était directeur centre de formation, Pierre Verdia, le coach des espoirs, qui me dit l'année prochaine, il y a moyen que tu entraînes avec les pros, mais pour ça, il faut que tu aies ton bac.
Ouais.
Alors j'avoue que mon année de terminale, elle était pas folle. Au niveau des cours, et des notes, c'était pas fou. Et là, pendant 2 semaines, parce qu'il m'avait dit ça fait 2 semaines avant le bac.
Oh,
pendant 2 semaines. J'ai jeté le ballon de basket à la poubelle. J'ai sorti tous mes cours. Tout ce qui est possible. J'ai réalisé pendant 2 semaines. J'ai eu mon bac. Je l'ai eu. Et ben dans ma tête, je me souviens que quand j'avais eu le bac, on l'avait appris. J'avais eu l'équipe de France de moins de 18 ans. On était en préparation. Et même que le matin, il y avait les résultats qui sortaient. Le staff avait exprès qu'il n'y ait pas d'entraînement. Pour qu'on puisse avoir nos résultats, qu'on puisse le voir.
Ça, c'est cool, ça.
Quand j'ai vu marqué admis, la seule chose que je me suis dit, c'est l'année prochaine, je m'entraîne avec les pros. C'est le seul truc qui m'est passé à la tête, c'est l'année prochaine, je m'entraîne avec les pros. J'étais tellement content.
Ah, bah, je vous fais croire.
J'étais super content, et du coup, voilà, ma quatrième année, je m'entraîne avec les pros, en espoir, ça se passe super bien. Avec les pros, ça se passe bien. Je crois que je fais mes premières minutes. Bon, je joue en prépa un peu, pas beaucoup, mais un peu. Je crois que sur mes premières minutes officielles, c'était en Euro Challenge. Alors ça, il y en a peut-être beaucoup qui peuvent écouter, qui ne connaîtront pas l'Euro Challenge. C'était,
c'était la FIBA World Cup maintenant.
L'Euro Cup, ça existait déjà à l'époque. L'Euro Challenge, c'était
ou
l'équivalent de la Champions League maintenant.
Ou la
FIBA Cup, là, la quatrième coupe. C'était l'équivalent.
C'était la FIBA Cup.
Ouais, et du coup, je fais mes premières minutes, je mets le premier point. Mais là, on se freine, nous sommes. Je prends un rebond, je veux courir comme un escroc en attaque foot. Comme c'est la fin du carton et sur la pénalité de l'entrée de France. Et je marque comme ça. Voilà, la saison passe plutôt bien. Et puis, c'est là où j'arrive en mars. Et c'est peut-être un des moments. Les plus durs de la carrière parce que tout se passait bien en espoir, je courais beaucoup, j'étais très bon, donc du coup c'est là où je dis oui, là je pouvais que je commençais un peu à me parler de moi, d'être dans la grande ligne, tout ça, voilà, on va dire que la hype commençait
autour des prospects, commençait à monter
et je peux dire que c'était 2 mars 2013, ça j'aurai la note.
Ah, tu t'en rappelles.
2 mars 2013, alors aujourd'hui ça fait... C'est un peu l'ironie du sort, mais match contre Nanterre en espoir. En milieu de deuxième carton, je me souviens très bien, j'ai mis le deuxième carton, j'intercepte un ballon à peu près aux trois quarts du terrain. Donc je repars de l'autre côté pour partir pour aller scorer, quoi. J'étais tout seul. Je laisse un coup d'œil au-dessus de mon épaule, je vois personne, donc je pars tranquillement. Petit layup. Et là, au moment où je fais le layup, je sens un contact en gros et sans contact, je tombe. Et c'est là, en fait, que je vais raconter dans ce temps-là parce que ce sera mieux. On me dira un peu après qu'en fait, je ne sais plus qui, mais veut venir essayer de me contrer. Mais comme il est très en retard, il me pousse en fait, je suis dans les airs. Il me pousse. Il fait pas exprès, mais il me pousse.
Ouais, parce qu'il peut plus s'arrêter.
Tombe, il veut me contrer, il a à peine vitesse arrière parce qu'il était en retard. Parce que moi, quand je vais regarder au-dessus de mon épaule, je vois personne. Voilà. Donc je me dis, je suis tranquille. Je lève, je tombe. Voilà, donc ça, on me l'a dit après, mais du coup, je tombe. Et sur le moment, je suis à plat ventre. Je suis par terre à plat ventre. Au final, à la fin d'action, je suis par terre à plat ventre. J'avais juste mal, plein de sportifs pour reconnaître ça, c'est des fois quand tu tombes sur les mains, que tu appuies sur les mains, t'as un peu mal au poignet. Ça fait vite fait mal dans le poignet. Donc moi, je sens ça dans mon poignet gauche, je sens que j'ai vite fait mal, donc je me dis, ça va aller. Et je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui me prend, alors peut-être un instinct, un réflexe. Je m'attrape l'avant-bras. Pourquoi, je sais pas, mais je m'attrape l'avant-bras, et là, je sens qu'il y a mon os qui est complètement décalé. Qui est complètement décalé quand j'attrape mon bras. Et là, je me dis, il y a peut-être un souci. Et mon premier réflexe, en fait, ça a été de serrer ma main. Donc, du coup, et là, c'est là où j'ai senti que mon os s'était cassé, que ça s'était sorti. Et moi, en fait, mon premier réflexe, ça a été de serrer et de tout ramener, en fait, d'essayer de tout ramener. Mm-hmm. Et donc, du coup, je me tiens à plat ventre en me tenant l'avant-bras. Et du coup, personne ne voit rien, en fait. De toute façon, moi, dans la salle, personne ne sait. Même j'étais. Je tombe très proche, au final, pas très loin de notre banc à nous, de Nancy. Et donc, je suis un peu à ventre. Et là, c'est l'assistant coach, le coach des cadets, c'est Mathieu Latard à l'époque, qui me dit ben ça, et il me demande est-ce que ça va. Et moi, je lui dis je crois que j'ai le bras cassé. Et du coup, là, ça a été, on l'a vu, je me retourne, et c'est un peu à ventre. Et je me tiens juste devant le coude, en gros. Et donc, normalement, si je me tiens au niveau de l'avant-bras, mais après, si je me tiens le coude, mon bras, il est censé tenir tout droit. Ben là, il tombait. ça tombait sur le.
T'avais plus de force, rien.
À l'endroit où l'os était cassé, en fait, ça tombait. Et là, je commence à entendre des gens crier. Ah, les joueurs qui étaient à côté, ah, qui criaient. Je me suis dit, ah, ça va.
Le truc qu'il faut
pas
faire.
J'avais pas voulu regarder au début, et bah après, de toute façon, mon bras était devant ma figure, donc je finis par le voir. Et donc, c'est là où je me suis dit, sur le coup, tu vois, je suis en pleine adrénaline, je n'ai pas de douleur, j'ai rien. Je suis plus rempli d'adrénaline, je sens rien.
Mais quand ça redescend,
je sens rien du tout. Puis là, je suis allongé. Donc là, il vient de commencer à me poser le bras un peu pour pas que, voilà, il me pose le bras. J'étais assis, tu sais, je suis allongé comme les positions de sécurité. Là, j'étais sur le côté, on me met le bras pour que je sois un peu prêt à l'aise. Et il y avait le directeur du centre de, enfin, le président, pardon, du centre de formation, qui était, alors, il est gynécologue, donc ça n'avait rien à voir avec ce qui peut être
Il connaît l'anatomie du corps.
Et là, j'entends qu'il dit, je l'entends un peu devant, il dit, oh, mais ça, c'est bon, dans 2-3 semaines, il peut rejouer. Alors moi, dans ma tête, comme je n'avais aucune idée, je me dis, oh, c'est super, c'est pas grave, en fait. On va rejouer dans pas longtemps, et tout va bien. Les pompiers arrivent, ils mettent le bras
dans une écharpe.
Ils enlèvent l'air, là. Ils enlèvent un truc où ils enlèvent l'air, là, du coup, pour plus que mon bras, il bouge.
Ouais.
Je sais plus comment ça s'appelle, ils mettent ça. Et voilà, ils mettent ça. Je vais dans le camion de pompiers. Bon, je vais à l'hôpital. Alors, j'ai de la chance, il y avait l'Institut de la main à Nancy qui était littéralement à 500 mètres de la salle. Donc, au moins, j'ai su où aller. Et donc, ils m'emmènent là-bas. Donc là, je commence à voir le spécialiste et tout, qui va me voir et tout. Il me dit, bon, va falloir faire une opération. Alors moi, j'étais toujours un peu dans l'adrénaline. Et puis après, les pompiers avaient donné un peu de médicaments, donc j'ai vraiment pas eu de douleur. Donc ça, ça allait. Et il me dit, là, ça va être opération et à peu près 2 mois de plâtre. J'ai dit, pardon.
Ah, c'est plus les 3 semaines.
Moi, j'avais entendu, les 2-3 semaines. Et là, je me dis, oh là là, mais attends, mais c'est pas tout ce qu'on m'a dit, là. Mais là, c'est chaud, là, 2-3 semaines, 2-3 mois de plâtre, enfin, 2 mois de plâtre. Mais c'est chaud, là. Et là, par contre, du coup, ça me met un peu un coup au moral, j'avoue que j'étais un peu... j'étais tout seul à ce moment-là, aux urgences, dans la chambre, là, où j'étais assis. Et je me suis dit, putain, il m'a quand même dit 2 mois de plâtre.
Ah, gars. Tu peux rien faire.
Ah, oui, grave. C'était le spécialiste. Alors, je veux dire, lui, oui, spécialiste.
C'est pas le gynéco, là.
C'est suivi. Et je me dis, voilà, ça me met un petit coup moral quand même. Je me suis dit, bon, allez, 2 mois de plâtre. Puis moi, après, jeune, un peu inconscient comme ça, où je me dis, bon, bah, après 2 mois, je me remets un peu en forme, mais après, je joue, quoi. Je me dis, ça va être pas mal. Et à ce moment-là, j'avais aussi la possibilité de faire les U20 avec un an d'avance. Parce que je me disais, j'avais mes copains m'appelaient très souvent par ce sujet-là. Et donc là, je prends mon mal en patience, je fais mes 2 mois de plâtre, je suis tous les jours à la salle malgré tout. Pardon, à faire du vélo, à faire les jambes, à faire tout ce que je peux faire, quoi, malgré que je sois dans le plâtre. Je me souviens, comme c'était mon bras gauche, j'allais même shooter à une main tous les jours à la salle. Et après, j'avoue que j'ai fait un peu l'enfoiré avec tous les gars du centre de formation, et il y a un mec dans le temps, ils se reconnaîtront. Bon, en fait, je venais toujours très tôt parce que j'avais rien d'autre à faire, donc je venais shooter à une main. Et au bout d'un moment, je leur disais, venez, on fait un concours, vous contre moi je suis à une main. Et j'ai pu leur dépouiller, je me souviens, à l'époque, il y avait un distributeur de canettes dans ce formation.
T'es vraiment un enfoiré.
J'avais volé un nombre de canettes parce que je les battais juste avec ça. Non, j'avoue, je faisais ça, je les ai... J'avoue, j'ai pas trop l'enfoiré. Je les ai volés un peu là-dessus. J'ai fait le coup. Mais non, ouais, c'était... C'est vrai que c'est le premier moment assez difficile de la carrière parce qu'il y avait une hype qui montait un peu autour de moi, et comme par rapport à aujourd'hui, comme il n'y avait pas tout ce qui était les réseaux, les machins, on gardait pas forcément, on va dire, les États-Unis n'avaient pas forcément un œil tout le temps, et que eux, ce qu'ils voyaient, c'était les matchs quand tu jouais le week-end.
C'est ça.
Et quand tu joues plus, t'es blessé,
la hype redescend.
Ils te voient plus, la hype redescend. Moi, du coup, 2 mois de plâtre, c'était ma saison terminée, parce que c'était au mois de mars. Et après, ce qui m'a fait encore plus mal, je pense, c'est le jour où j'ai enlevé le plâtre.
Ouais, t'as vu ton bras
le jour où j'enlève le plâtre, j'ai vu mon bras qui ressemblait à rien.
Déjà que t'es pas gros.
Tout petit.
Déjà que t'es pas gros.
Mais ouais, c'est ça. il était tout petit. Franchement, c'était voir que de la peau sur un os. C'est vraiment l'expression, avoir la peau sur les os. Ben, c'était littéralement ça. J'avais plus de muscles. Je m'étais pas rendu compte parce que je n'étais pas conscient. Mais je ne pouvais pas tendre le bras. Je ne pouvais même pas. J'étais en fait dans un plâtre sans avoir le plâtre. Je ne pouvais pas bouger mon bras. J'étais resté tellement longtemps dans la même position que je ne pouvais plus bouger. Et c'est après qu'il m'a dit, oui, ben là, il va se falloir ma rééducation juste pour retendre le bras. Oh, je me suis dit, mais ça va prendre une éternité de revenir à un niveau normal.
Déjà que tu serres les dents, parce qu'on te dit 2 mois, tu te dis au bout de 2 mois, ça va être bon. Et là, t'apprends qu'il y a la rééducation.
C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui peut être assez impatient dans la vie. C'est un défaut, mais je peux être assez impatient pour les choses. Donc là, quand je me dis 2 mois, je m'étais dit, allez, après 3 semaines pour se remettre en forme et c'est bon. Et là, on me dit, et au final, il m'a fallu 1 mois pour retendre le bras normalement. Après, il a fallu retravailler la mobilité de l'avant-bras, des poignets, de machin. Après seulement ça, il a fallu que je reprenne la muscu pour remuscler. Alors, c'était une horreur, c'était super long. Pour moi, ça m'a paru une éternité.
C'est là que tu dis que...
J'ai pu reprendre en août, et au final, ça m'a fait que de mars à août. Mmh. Mais pour moi, ça m'a paru une éternité.
Ah, mais clairement, mais c'est là que tu te rends compte l'injustice du corps humain, où tu charbonnes comme pas possible pour avoir des résultats, et en quelques mois, tu les perds.
C'est ça, j'étais tout, c'est ça. Du coup, il y a tout. C'est là où je me dis, ouais, la hype de l'NBA, elle est partie. Dans ma tête, c'est pour moi, c'est passé. Ça, c'est fini. Je peux oublier. Après, il faut refaire. Il faut limite refaire toutes ces preuves. Ça fait 5 mois que t'as pas joué, ça fait 5 mois qu'ils t'ont pas vu, que personne ne t'a vu.
Pour l'instant, le train, il avance, hein. Et d'autres personnes essayent de prendre ta place.
Après, c'est malheureux parce que c'est sur une action, voilà. Et il a pas fait exprès, moi je m'y attendais pas, donc j'ai pas pu me protéger. Donc c'est la vie, comme on dit, je veux dire aujourd'hui, c'est la vie, quoi.
C'est ça, c'est pas un truc que tu peux maîtriser.
Non. Ouais, c'est ça. J'ai pas. Une fois que c'est fait, donc tu peux plus maîtriser. C'est fait. Et du coup, je commence à reprendre. Entre temps, j'ai quand même réussi à signer pro à Nancy. C'était quand même dur de reprendre parce que j'avais du coup des plaques et vis dans le bras. Du coup, j'ai dû les garder toute la saison qui a suivi. Mmh. Dès que je prenais un coup dessus, c'était une horreur. Dès que je défendais, qu'il y avait une balle qui arrivait sur mon avant-bras, sur une passe, je sentais plus ma main pendant 10 minutes, je sentais plus mon bras. Enfin, ça faisait super mal. C'était ma première année pro. Donc en plus, c'est là où il faut se faire du temps de jeu et tout. Mais j'avais encore assez mal pendant cette année-là. Après, je ne l'ai jamais dit à personne parce que je ne suis pas gars qui va se plaindre et tout ça. Mais j'avais quand même assez mal quand je jouais et tout. C'est pas évident, quoi. Et surtout pour une première année pro. Voilà, c'est pas celle que je vais garder dans ma tête, forcément. Mais c'est des étapes, comme les années d'avant, qui ont été difficiles ou pas. C'est des étapes qui font qui je suis aujourd'hui. Donc je regrette absolument pas ce qui s'est passé dans ma carrière. Je suis très content du joueur que je suis aujourd'hui. Mais voilà, c'est que la première année pro, du coup, assez dure. Du coup, je joue pas beaucoup. Pendant l'année, à un moment donné, il re-signe John Lennon pour 2 mois, je crois. Donc là, je joue encore moins. Marcus Banks qui arrive, donc là je suis vraiment le petit jeune. C'est dur de se faire une place, mais j'arrive à grappiller les minutes un petit peu par-ci par-là. Quelques minutes, première année, on fait finale de Coupe de France contre Nanterre, encore une fois. Contre Nanterre, que je perds, qu'on perd contre Nanterre en finale, et là je rentre et je fais un passage super intéressant quand je rentre en fin de première mi-temps. J'arrive à avoir des petites minutes par là où je suis pas trop mal. Voilà, je fais des entrées correctes après c'est jamais évident parce que je sais jamais quel match je vais jouer, si là il y a des matchs que je vais pas jouer, après je vais jouer un petit peu. Voilà, c'était, et puis c'était quelque chose de très nouveau pour moi. Je sors du jardin d'espoir où je ne sors pas du terrain du match. Quand je joue 40 minutes à tous les matchs. Là, c'est, tu sais pas si tu vas jouer ou pas.
T'espères c'est vrai que le coach te regarde pour dire de rentrer.
Ouais, et puis quand t'es, parce que tu donnes tout à l'entraînement, t'es jeune, t'es un nouveau pro, tu peux te prouver, tu donnes tout à l'entraînement. Même qu'à l'entraînement, tu te dis, ah, aujourd'hui, j'ai peut-être été meilleur que lui en face de moi, que le gars avec qui je suis en concurrence pour jouer. Ben ouais, mais lui, il est pro, moi, je suis espoir. Donc, vu le coach, il ne peut pas forcément jouer beaucoup, voire pas du tout. Donc, ouais, c'est assez dur.
Tu penses qu'il y a une surtout, certaine injustice en tant que jeune?
C'est ça, en tant que jeune, on peut se dire, ouais, mais là, je pense que cette semaine, j'étais meilleur que lui et je joue pas. Donc, je dis, ah, non, qu'est-ce que je dois faire d'être encore en plus? Il y a beaucoup de questions qui viennent se poser à ce moment-là.
Et très peu de réponses.
Et voilà, et c'est vrai qu'on n'a pas la réponse. En plus, de base, moi, je suis quelqu'un qui peut être assez timide et réservé, de base, quand j'étais jeune. Ça a pu changer un peu avec le temps, certes, mais de base, je suis quelqu'un d'assez assez timide, tout ça, donc je n'ose pas forcément aller voir le coach pour lui demander, tout ça. C'est pas moi, en fait, de faire ça. Donc je le fais pas, je reste un peu, ben, je me dis, ben, faut que je travaille plus. Donc je travaille un peu encore plus, j'essaye de faire encore plus. Mais voilà, c'est une première année où... assez difficile, mais elle se termine, je fais quand même le championnat d'Europe plus bas, et là ça me permet de rejouer déjà, bah, de rejouer plus régulièrement on va dire, ça me permet de faire des matchs, du temps de jeu plus régulier, mais je joue toujours avec la plaque, avec la douleur, avec la plaque et tout, et d'ailleurs c'est un quart de finale contre l'Espagne, ça j'ai les photos par contre, parce que ça a marqué aussi. Où en fait, à côté, avant ça, c'était prévu que je me fasse réopérer juste après le championnat d'Europe pour enlever les plaques et les vis.
Ouais.
Voilà, ça, c'était, je l'avais prévu, calculé. Voilà, je vais le faire juste après le championnat d'Europe. Et en quart de finale contre l'Espagne, on est, je crois, juste derrière. On est à moins 1. Il reste très peu de temps. Enfin, il doit rester une vingtaine de secondes peut-être. Et il y a une remise en jeu pour l'Espagne. On défend bien la remise en jeu. Et le joueur que je défendais, c'est Schuster. Et il y a un écran pour lui, pour qu'il remonte. Parce que c'est un peu la fin des 5 secondes, ça s'approche de la fin, et j'ai un petit peu de retard. Je suis très légèrement en retard sur mon joueur. Donc il regarde la remise en jeu, décide de lui faire la passe. Mais c'est une passe très lobée. Mais vraiment lobée. Quand je vois ça, je cours, je dis, je saute, j'intercepte ça, je marque et on passe en demi. Le plan se déroule bien jusqu'à je saute. Je pars la balle, j'intercepte, mais en fait, je suis tellement haut, il y a la photo, j'ai mon genou au niveau de sa tête.
Oh.
Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va très légèrement se courber un peu, et du coup, j'ai ma jambe qui se prend sur son dos, en fait.
Ah, tu fais un soleil.
Et je tombe par-dessus lui, mais en tombant sur le bras que j'avais cassé avec les plaques et les vis.
Oh.
Et là... impossible de bouger. Pendant les 3 jours qui ont terminé le championnat d'Europe, j'avais la main qui tremblait pendant les 3 jours. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, ah, s'il y a moyen que je me sois répété un truc. J'avais mal, je tremblais dans tous les sens. Bon, sur le coup, c'est une des rares fois où j'ai eu peur. J'ai vraiment peur de quelque chose à ce moment-là. Je me suis dit, oh non, je vais repartir par la même chose. Franchement, ça m'a fait flipper. Honnêtement, ça m'a fait peur. Et au final, ça ne s'était pas cassé parce que après on m'a expliqué que l'os, une fois qu'il est cassé et qu'il est consolidé, il ne peut pas se casser au même endroit.
Il ne peut pas se casser au même endroit, ouais.
Donc ça m'a rassuré. Mais du coup, au final, on perd le match et tout ça. Après le match, ça m'a un peu. Je peux paraître égoïste, mais je m'en fiche un petit peu tant que mon bras allait bien au final.
T'imagines le gros flip que tu te fais à ce moment-là?
Ouais, là j'ai eu peur.
Trois jours de doute.
J'ai vraiment eu peur.
T'attends le verdict du médecin qui te dit ça, et après tout descend.
Après, c'était en Grèce, en Crète, le championnat d'Europe, et il m'avait fait faire une radio en Grèce juste après le match. Oh le bordel déjà pour faire une radio en Grèce, Ça, je peux passer. C'était un sacré bordel. Et c'est là que je vois que déjà que c'était pas recassé. Donc, je me suis dit, bon, déjà, c'est pas mal. Après, je me refais opérer. Et là, pareil, il fallait un mois avant que je puisse rejouer et tout. Mais ça allait. Et du coup, là, ouais, c'est fin de la première année pro. La deuxième année pro, ben, on fait, comme on a fait une grosse saison avec Nancy avant, on fait finale Coupe de France.
C'était le grand Nancy de l'époque.
Ouais, ouais, on fait demi-finale de play-off. Et ça, c'est aussi un des souvenirs qui m'a marqué fortement. Et pas en bien, du coup, mais un souvenir qui m'a marqué. On est en demi-finale contre Strasbourg. On mène 2-1. Au premier en 3, on mène 2-1. On est chez nous. On est dans le dernier carton. Il reste combien de temps ? Il doit rester 5 minutes, même pas 4 minutes. On est à +13, +13, +14. Là, moi, j'étais au bout du banc, je jouais les petites minutes en première mi-temps, en général en play-off, et puis après, c'était fini. Donc, j'étais là, je me dis, bon, c'est bon, on va aller en finale, et c'est trop bien. Ça. Strasbourg, nos amis, une remontée. On perd le match chez nous, 2-2. Il fallait essayer de gagner un match 5 à Strasbourg.
Bonne chance.
Imaginez, bon, on n'a pas réussi à le faire. On perd, donc ça c'était. C'est vrai que c'est dommage, ça aurait pu faire une finale la première année, ma première année, tout ça aurait été quelque chose d'assez assez incroyable, mais bon, malheureusement, dans le sport, on n'y va pas. Du coup, on fait l'Euro Cup l'année d'après. Là, on fait l'Euro Cup, donc là voilà, là je suis vraiment en backup cette année-là.
Là, on te fait de la place pour que tu On te fait de la place pour que tu sois
de second. Derrière Darius Adams.
C'est ça, Darius Adams, ouais.
Très fort attaquant. Alors, ouais, niveau du talent, c'est un des meilleurs que j'ai pu voir, avec qui j'ai pu jouer, vraiment super. Après, c'est vrai que ça pouvait être des fois très individualiste.
C'est un carré. Côté truc,
ça peut s'énerver sur lui pas mal de fois, mais voilà, il y a un talent de fou. Voilà, ma deuxième année avec l'Eurocup, voilà, je joue, j'ai une petite minute, mes petits 15, 10, 15, par minute, des fois ça se passait bien, je jouais, ça se passait bien. On se qualifie l'Eurocup, on fait demi-finale de l'Eurocup, on perd sur les dernières secondes d'un point. On refait demi-finale de championnat contre Limoges. Qu'on perd avec de blessés à la fin, c'était incalculable. Mais voilà, c'était une bonne deuxième année pro, ça se passe pas trop mal.
On en parle aussi des concours de meneurs All-Star.
C'est vrai que je fais ça, j'avoue, ça, je le zappe. Mais je sais plus à quelle année j'ai commencé. Mais ouais,
2015,
merci de me le rappeler.
Et tu fais 2016 et 2017.
C'est ça, je gagne trois fois de suite.
Trois fois de suite. Le gars, il dit, hey, ouais, je suis backup, mais je vais vous montrer ce que c'est les skills. Et comment on va vite.
C'est ça, donc je fais un petit concours trois fois de suite, hein, que je gagne trois fois de suite. Je vais revenir juste après sur le concours parce qu'il y a une petite anecdote là-dessus que personne ne connaît. Elle est pas mal. Mais du coup, je fais ma deuxième année, la deuxième année pour un notaire. À Nancy, pardon, ça se passe plutôt bien. Je joue. Voilà, je suis pas encore le joueur très forcément plus efficace, des choses pire, des choses comme ça, mais je sais pas, je suis encore jeune. Pour une deuxième année pro, c'était correct. Ouais, c'était plutôt pas mal. Troisième année, autant individuellement, là je fais une grosse saison,
c'est
troisième
explosion.
Année, mais collectivement, très dur. On est sauvé largement avant la fin du championnat, ouais. Mais c'est dur collectivement quand même.
Là, c'est le début de la descente de
Ouais. Bon après voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le genre d'endroit, même il n'y a pas d'endroit pour faire ce genre de choses. C'est pour rien que j'en parle en direct avec les gens concernés, mais. Il y avait à l'époque là quand même, moi qui étais là depuis beaucoup d'années, je commençais à me rendre compte qu'il y avait quand même beaucoup de soucis à force dans le. Pas mal de soucis dans le club à force. Et voilà, que c'est. Tu sentais que ça partait pas dans la bonne direction. Et puis voilà, après il y a cette quatrième année où quatrième année pro là-bas.
C'est là où je voulais en venir.
J'ai pas mal de choses, si tu veux, à l'intersaison, pas mal de choses qui me sont entre guillemets promises, mais j'étais jeune, j'étais jeune et naïf, très naïf sûrement. Donc je crois à pas mal de choses qu'on me dit. qui au final ne se passe pas. Je joue très peu. Si on commence, je joue presque pas, je joue très peu. Je comprends plus trop ce qui se passe. Pour moi, mentalement, ça me...
Ah, ça te bousille.
Comment le dire ? Ouais, c'est... voilà, c'est très dur. C'est vraiment pas simple. C'est... Je comprends pas trop ce qui se passe et tout. Bon, on perd tous les matchs. Je joue pas beaucoup, je joue pas beaucoup, alors presque pas. Je comprends rien ce qui se passe. Le coach est mis de côté, le coach est viré. Là, je commence à jouer un peu plus, mais là, une fois que tu es dans une spirale comme ça, bah, c'est très dur.
C'est très dur.
Il n'y a plus rien. Déjà, l'année d'avant, c'est un peu dur, et puis, mais là, il n'y avait vraiment plus rien qui allait. Il n'y avait plus grand chose qui allait dans le club, mais c'est passé à la fin.
Ce qui est fou, excuse-moi de te couper, ce qui est fou, c'est que Nancy est passé du soleil à la pluie en l'espace d'une année.
On va dire que, je vais être très honnête, les deux années où je passe pro et qu'on fait une demi-finale, c'est un peu un camouflé justement de cette pluie.
D'accord, ok.
C'est un peu un camouflé parce que déjà à l'époque là, ça commençait à... Voilà, il y a des choses qui commençaient à aller moins bien, mais comme s'il y avait beaucoup de vétérans sur le terrain, que voilà, ça fait qu'on gagnait des matchs et ça cachait beaucoup de choses déjà en fait. Et ça cachait beaucoup et voilà, cette année, c'est arrivé par une descente, c'était très dur. Franchement, ça a été dur à vivre quand même.
C'est ce que je voulais te demander parce que tu as un joueur comme toi qui a passé autant d'années à Nancy et se retrouver à descendre dans le club qui a fait ce que tu es aujourd'hui.
Non, c'était dur. C'était dur, honnêtement. Ça a été dur et avec le recul et voir que comment ça se passait, je me suis dit c'était presque inévitable que ce soit cette année-là, celle d'avant ou celle d'après, ça aurait fini par arriver presque. C'est malheureux à dire, mais c'était pratiquement sûr que ça allait arriver. Ça a été assez dur à vivre. Je peux maintenant les remercier, mais là, c'est en passant à Gravelines. Je peux remercier Julien Maé, qui était coach, qui venait de signer coach principal à Gravelines, et Hervé BDLM et Christian Devos, qui m'ont ça m'a donné une porte de sortie, du coup.
Monsieur BDLM, moi, c'est ce que j'ai.
Ça m'a donné une porte de sortie.
Clairement, je pense que Gravelines.
De cette galère. Ça m'a permis.
De te remettre la tête à l'envers, à l'endroit, pardon.
À l'endroit, et comme j'avais dit au tout début, avant qu'on en reparle maintenant, c'est vrai que ça a été un peu l'année de l'émancipation, parce que c'était un peu le petit qui part de son cocon de Nancy, tout ça, et qui va faire ses preuves ailleurs.
Tu vas se mettre en difficulté.
C'est ça, c'est l'inconnu, parce que c'était parti un peu dans quelque chose que tu connais pas, dans l'inconnu. Et c'est vrai qu'au début, c'est l'année où on signe DJ Cooper, donc il y a beaucoup d'attentes autour de notre équipe quand même, parce que
DJ Cooper
sort d'une année d'MVP à Pau, donc on a tous vu ce qu'il avait fait en tant qu'MVP à Pau. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes autour de notre équipe, ça commence très mal.
Excuse-moi, DJ Cooper, c'est l'épisode de l'urine là ?
Ça a été juste après ça.
Juste après ça.
Juste après ça. En fait, lui, il a commencé la saison avec nous et il s'est fait attraper en playoff avec Monaco quand il était parti après.
C'est ça. Ah oui, il avait forcé son transfert.
Un peu, ouais, parce que là, c'est cool ce qui commence à arriver, mais on commence mal l'année, 0-4. Enfin, on rentre dans le déplacement, alors je sais exactement où on était et. On jouait que le lundi. Parce que c'est là où il y avait les matchs à la télé le lundi soir. Ouais. Après. Donc on jouait que le lundi, on recevait Pau. Et alors là, on rentre des déplacements, machin, on arrive à l'entraînement, l'entraînement qui suit. Il n'est pas là. Bon, on voit ce qui se passe. En fait, on comprend qu'il a envie de se barrer. Il a envie de se barrer, donc il n'est pas là. Du coup, on sait qu'il va pas jouer, donc tout le monde se dit oh là, Gravelines, DJ Cooper, il est parti, il va pas jouer, ils sont à 0-4, c'est la merde, quoi. Et donc c'est là où du coup bah, je suis seul meneur pour ce match, du coup, vu qu'il est parti, et on arrive à le gagner. On débloque notre compteur de victoire, on gagne. Ça commence à être le soulagement un peu partout, enfin dans le club, c'est un peu le soulagement, ça y est, on arrive à notre première victoire. Vous allez voir, après c'est là, je crois, on fait un truc genre 8 sur 9 ou 9 sur 10. On gagne 8 matchs sur 9 ou 9 matchs sur 10.
Vous êtes lancé.
Après, on enchaîne, tu vois. Mais, et du coup, ça fait que je reste premier meneur, en gros. Et là, je joue. Et c'est là où je commence à faire des gros matchs. Je commence à être bien. Et c'est là pour ça que je parle un peu d'émancipation. Et puis voilà, je suis parti de Nancy. On m'a ouvert une porte à Gravelines. J'ai mis mon coup de pied. La porte ouverte, j'ai saisi ce qu'il y avait à saisir. Je fais une bonne saison, All-Star Game du coup, je suis sélectionné All-Star pour le match, je suis pris All-Star, je fais une bonne saison, on rate la Leaders Cup pour vraiment
un point,
pour vraiment pas grand chose, du coup on continue notre run, on s'approche, on est toujours en bataille pour les playoffs toute l'année. Et c'est là où j'ai eu une pubalgie qui m'est arrivée, et là ça m'a fait très mal, c'était un match contre Limoges, où j'avais déjà eu un truc similaire un peu ma dernière année à Nancy, une pubalgie qui est très gênante, après là, s'il y a des fouteux qui écoutent, ils savent ce que c'est, mais ça me faisait super mal dans les adducteurs, et en fait, le souvenir que ça s'était blessé, où au début ça me tirait un peu dans le bas des tableaux, c'est le premier symptôme que j'avais eu en gros. Et là, je me souviens, tout allait bien, la vie se passait bien, ma saison se passait bien et tout. On arrive au mois d'avril et on jouait Limoges. On le recevait Limoges, alors moi je me sentais très bien, j'avais aucun souci et tout. Et là, on me revient de la sieste d'avant-match, une douleur dans le bas des abdos, je me dis putain, je reconnais ça. Et là, ça commence à me faire un peu, je me dis oula, c'est pas bon ça, ça pue. Je dis un peu, ça pue. Mais je dis rien, parce que tu vois, je me sentais bien tout le temps, tout le monde s'est dit, bon, allez, bien, on va jouer, ça va être normal. Là. Et là, j'arrive au match, je me dis, putain, mais j'ai mal quand même, j'ai des abdos qui me tirent et tout. Et la première mi-temps, je commence à sentir que j'ai mal dans les adducteurs, mais j'arrive à courir encore droit. Et je me dis, ça va. Et la deuxième mi-temps arrive, et là, je me dis, je sens que j'arrive plus à courir. D'un coup, je m'arrête, je regarde, je dis, là, je peux plus. Et alors, le coach, je lui dis, je peux plus et tout. Je vais sur le banc, je vais dans le vestiaire avec le kiné, le doc, je leur dis non, là, je me sens pas bon. Je dis franchement, je reconnaissais la douleur un peu et c'est pas bon, pas plus. Et ils me disent non, ça va aller, t'inquiète pas. Je reviens sur le banc, je sors avec un sachet de glace qu'il m'avait mis pour essayer de calmer la douleur. Et là, beaucoup de gens m'ont dit après, on voyait dans ton regard que tu avais compris que ça allait pas. Et j'aurais dit oui, à ce moment, je le savais. Et du coup, c'est ma saison qui s'arrête à ce moment-là alors que j'étais... Là, j'étais premier meneur de l'équipe de Gravelines. Ça se passait bien. Il y avait une grande chance qu'on puisse faire les playoffs.
Ça joue les playoffs.
Il y avait une grande chance qu'on fasse les playoffs. Et j'étais dégoûté, en gros. Parce que je savais qu'après ma saison s'est terminée là. On rate les playoffs pour un match ou deux. Enfin, j'étais dégoûté. Ça se passait super bien et ça a fait un peu la saison d'ascenseur émotionnel. Ça a été assez compliqué. Du coup voilà, ça se termine comme ça, la deuxième année commence super bien et je joue de moins en moins, j'avoue que je comprenais pas trop. Je me souviens que j'avais même, là à ce moment-là, j'avais un petit peu grandi, un peu plus mature, donc je vais de moi-même voir Julien Baillet, je lui demande un peu,
qu'est-ce qui se passe ?
Voilà, je voyais dans les chiffres, je suis bien, dans les stats, je suis bien, sur le terrain, je suis bien, pour gagner des matchs, tout ça, je me dis, en un gros, pourquoi je joue pas, mais enfin, pourquoi je joue de moins en moins ? Et donc à un moment donné, j'avais mis avec mon agent, c'était Kebuna, Buna India, et je lui dis, écoute, je suis dans un bon basket, je lui dis, si c'est pour ne pas pouvoir le montrer, autant que je pars, quoi.
Clairement.
Et du coup, il me dit, non, je jouais plus, là, machin, bon, au final, je jouais un peu plus après, mais bon, pas forcément beaucoup, mais du coup, il va pas partir, donc je suis obligé de rester.
Tu dois rester, hein, t'as un contrat, mon pote. Hein.
Ouais, je reste. En plus, c'est l'année du moment où ma fille naît. Donc, ça aurait quand même été aussi très compliqué de partir quand elle venait tout juste de naître. Ouais, c'était vraiment un nouveau-né. Donc, ça aurait été très compliqué. Faisable, mais très compliqué.
C'était pas la meilleure position pour partir.
Voilà, c'est ça aussi. Et après, il y avait la troisième année où là, ça. ça commence plutôt bien, on est bien, l'équipe s'entend bien, ça joue plutôt pas mal.
Et après ?
C'est correct, on gagne des matchs. Et il y a un événement dans cette année-là, au même moment on en aurait discuté avec Amadi, qu'on joue ensemble à ce moment-là et on se retrouve à Nanterre, on a discuté, c'est un événement qui a tué notre saison, enfin, qui a été arrêté par le Covid, mais qui a tué notre saison. On est au Mans, je crois. On est au Mans, c'est serré, mais on mène. Donc comme c'est un peu serré qu'on mène, je me souviens que Eric Barthécheka met sur le terrain Juice Thompson, moi et Trey Lewis. Donc on regardait la balle et comme ils allaient peut-être faire des fautes, tout ça, avoir des choses dans ses fronts. Il nous met les trois sur le terrain et on se souvient que Trey Lewis, c'était quelqu'un qui était assez centré sur lui-même et donc il voulait un peu briller à tout prix. Et je me souviens sur une remise en jeu, il y avait Eric Macri, je sais pas si tu te souviens de lui, Eric Macri qui lui fait la passe.
Oui, si, je me souviens très très bien.
Et il garde le ballon
pour avoir la
en
faute.
Étant face faute pour que ce soit lui qui a été dans ses fronts. Sauf que le Mans met pris, fait comme une double team, il le trappe dans un coin de terrain et on est à deux doigts de perdre la balle. Au final, on gagne le match, c'est pas bien, finalement. Et dans le vestiaire, alors qu'on venait de gagner, Eric Macri et Trey Lewis, on a dû se lever pour les séparer parce que ça a failli partir en couille.
Ah, mais...
Ça a failli se battre, alors qu'on venait de gagner. Là, ça
a
des mots qui sont échangés, machin, là, là.
Le gars, il a failli coûter le match en voulant être selfish.
Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a des mots qui sont échangés. Donc, à un moment donné, on entend... C'est allé très loin, quand même. On entend des mots un peu, genre... Enfin, ouais, chez moi, tu peux être. On peut te tuer pour des choses comme. Si tu dis des choses comme ça, toi, voilà, on commence à faire les mots, on se lève, tout le monde fait par tout le monde. Et on vient à la vidéo le lundi pour revenir sur le match. Et là, ce coup-ci, c'est Eric Macri, mais qui tombe avec le coach. Là, pareil, les deux se lèvent, on se dit, oh, c'est bon, arrêtez. Et après ça, en fait, ça a mis un peu. Je sais pas si ça a mis un froid ou quoi, mais ça a
tué la cohésion de l'équipe.
Le mood qu'il y avait dans l'équipe, et on perd vite de suite. Ça a tout un peu tout tué, tout ça. C'est, bon, l'année s'arrête avec le Covid, tout ça, mais ça a un peu tout tué dans une équipe qui partait plutôt bien. Ça, pareil, on était vers 8, 7, 6, 7, 8, 9, tu vois, dans ces eaux-là. Et voilà, ça part en couille cette année-là. Bon, moi, je joue, je fais mes chiffres, je joue, je suis plutôt pas mal.
Non,
la saison s'arrête. Bon, après,
tu fais une bonne partie sur offensive, hein.
Je suis plutôt bien.
Bah, le Covid arrive, malheureusement.
Je suis bien, donc ça stoppe tout.
Ouais.
Et là, c'est là où il y a eu la décision
de partir
à Boulazac.
À Boulazac, ouais.
Il y a plus sur point qu'il y a plein de parties gravées. Je pense que j'avais fait le tour là-bas un peu.
Surprenante. Ouais, je pense que tu voulais un rôle.
Non, je pense que ça a pu surprendre pas mal de gens. Mais ouais, voulais avoir un rôle. Certes, c'était peut-être c'était une des motivations. Mais le truc qui a surmotivé ça, c'était comme on était en train de période de Covid, on savait pas trop ce qui allait se passer.
T'entendais partout,
ouais, il y a beaucoup de budgets qui vont descendre, donc on saura pas les équipes, comment elles vont faire, leurs joueurs, machin. C'était des trucs qu'on entendait parce que c'était une situation nouvelle pour tout le monde et
exactement.
On savait pas trop comment ça allait se faire.
Exactement.
Donc pour les joueurs qui étaient sous contrat, entre guillemets, eux étaient un peu plus tranquilles. Ils disent, bon, au pire, moi je suis j'ai mon contrat, j'ai mon truc, il n'y a pas de problème. Moi,
mais
j'étais en fin de contrat, c'est un peu différent.
Mais pour les autres.
C'est là où on me disait, ah, c'était un peu dur. Genre, moi, j'étais dans la situation des gars qui étaient en fin de contrat. Donc j'étais dans ma tête, c'était un peu. Moi, j'avais ma fille qui venait juste de voir qu'elle avait un an et demi.
C'est ce que j'allais dire. Ta fille,
qui avait un an et demi. Donc, je me suis dit, ah, est-ce que j'attends pour me dire, allez, il va y avoir des bons trucs qui vont arriver et tout. Ou est-ce que je sécurise quelque chose assez vite pour voilà, être sûr de. Comme on dit, je veux dire, être sûr d'avoir à manger dans son assiette, quoi.
Clairement.
Être sûr que ça aille bien. Et j'ai pris cette option-là de pouvoir signer assez vite. Ce que j'ai fait. Je pense que sur les épisodes Boulazac, tous ceux qui ont joué avec moi dans cette équipe savent ce qu'ils sont passés. C'est pas encore le temps de sortir des choses qui se sont passées, mais pense qu'un jour, quand j'aurai terminé, si on veut des infos croustillantes sur ce qui s'est passé, il suffit juste de marcher.
Mais tu sais, j'ai envie de... Benjamin, j'ai envie de te dire...
C'est pas le moment.
Tu sais que, par exemple, off-court, c'est vraiment pas un espace genre règlement de compte. Tu as le droit de...
Ah non, moi, c'est pas règlement de compte.
Non, t'as vraiment le droit d'avoir ton ressenti.
Juste dire ce qui s'est passé.
Ouais, clairement.
Enfin, je veux dire ce qui s'est passé, mais honnêtement... même quand j'en parle avec des joueurs, tout ça, des coéquipiers, il y a pas plein de gens qui sont au courant quand même de ce qui s'est passé, surtout dans le monde du basket. C'est pas le moment, c'est pas le moment d'en parler encore. C'est pas règlement de compte, hein, mais c'est juste
c'est
de
pas le
montrer
moment.
Que
tu estimes que c'est pas le moment, c'est que c'est pas le moment.
C'est pas le moment, mais c'est aussi de montrer que voilà, il y a des endroits où peut-être des fois des choses qui font que la vie d'un joueur pro, c'est pas un autre club tranquille.
Ah écoute, tu vois, rien que pour les auditeurs ouais. qui ont pu entendre ton parcours, il y a des similitudes avec un gars que tu connais bien, avec qui tu as bossé, et quand je vois ton parcours, comment t'en parles, eh ben, quand je l'ai reçu sur Off Court, il avait les mêmes émotions.
Ouais, c'est ça, c'est la vie du joueur pro. Autant elle peut être très différente d'un joueur à l'autre, autant il peut y avoir beaucoup de ressemblances.
Est-ce que tu sais de qui je parle ?
Je suis pas sûr, mais je pense.
T'as bossé avec lui ?
J'aurais dit Seydou.
Bravo, c'était Seydou.
C'est la seule personne qui me vient en tête direct.
Ah, ben c'est Seydou. C'est Seydou que j'ai reçu sur Off-Court et qui avait les mêmes émotions quand il parlait, toujours sans filtre, mais pas en mode règlement de compte, mais il tenait à dire qu'il avait vu ta
pro. Non, parce que j'ai pas de compte à régler, mais c'est voilà. Il y a des
choses qui se sont passées, tout simplement.
Voilà, il y a plein de choses qui se sont passées. Donc c'est pour ça l'épisode Boulazac,
je saisis l'opportunité, si tu me permets, vu que l'épisode Boulazac... On va le jump off un peu. Et pour rebondir un peu sur l'actualité du moment, Nanterre, c'était comment les premiers contacts avec Donadieu ?
Alors avec Pascal, ça faisait déjà, pour être très précis, depuis la fin de ma première année à Gravelines. Il m'avait appelé pour que je vienne. Alors après, là, honnêtement, si je peux juste avoir un petit regret, c'est peut-être de ne pas y être allé à ce moment-là.
Ah, mais ça, on a pris la boule de cristal.
Donc je regrette un petit peu, pas forcément pour la saison qu'ils ont fait après, mais pour moi, plutôt après, justement.
Pour bosser avec lui,
mais surtout pour moi après, ou le fait que voilà, ma deuxième année à Gravelines, comme il ne fait pas trop jouer alors que tu avais fait une très bonne saison avant... c'est un peu l'incompréhension, tu vois. Donc je me dis, par rapport à ça, si j'étais parti, peut-être que j'avais fait les choses pour avoir une bonne opportunité ailleurs, et peut-être de ne pas l'avoir saisi, c'est peut-être ça mon regret, en fait. Mais sinon, ouais, les contacts avec Pascal, je les ai depuis assez longtemps.
Et pareil,
j'ai remercié que ce soit lui, son frère, le président maintenant, son père qui était président à l'époque, ça m'a donné pareil une porte de sortie après la dernière Boulazac qui a été assez chaotique, mine de rien, mais voilà, donc du coup, maintenant depuis 2 ans à Nanterre et où une première année un petit peu timide, je veux dire, correct en étant un petit peu timide, et là une deuxième année où voilà, je me sens bien dans le groupe et où j'arrive à m'épanouir bien comme il faut.
On va rester sur cette deuxième année dans les Hauts-de-Seine. Est-ce que vous avez investi sur un marabout ou pas ? Non. Franchement, je te donne un contact à Dakar. Wallahi, à Tiaroy. Tu vois, à Tiaroy. Il y a un marabout là-bas, il est très très fort. Wallahi, hein. Il est très très fort. Parce que là, les blessures là, faut arrêter.
Mais même moi, j'en rigolais en disant ça à un moment donné, mais. Quand on a eu, franchement, on a regardé, on s'en est dit, on a eu quand même 4 fractures de la main, enfin 3 fractures de la main. Donc c'est quand même, déjà sur une saison dans une ligue, c'est beaucoup, mais là dans la même équipe pour une demi-saison, c'est énorme.
C'est énorme.
Justin, lui, c'était pas une fracture, mais il s'est pété le ligament du pouce, donc il a fallu faire opération. Donc pareil, nous on comptait dans les 4 blessures de la main. Hans qui s'est fait une entorse de la cheville. J'avais jamais vu une cheville comme ça. Franchement, je veux pas exagérer, mais c'était énorme et violé.
Une cheville
voilà le résumé de sa cheville. Énorme et violé, c'était ça. Et voilà, on a eu une malchance possible, donc fallait essayer de faire un peu le dos rond là-dessus. C'est super compliqué. Donc. C'est vrai que nos ambitions de début de saison, elles ont changé. Vu que avec ce qui s'est passé, elles ont changé. Donc c'est chiant. Là, c'est chiant. C'est ça. C'est quand on est compétiteur, c'est chiant de se dire qu'il faut changer ses objectifs pour les revoir à la baisse. Mais avec voilà, ce qui s'est passé, il faut aussi ouvrir les yeux et se dire et se rendre compte que la situation dans laquelle on est, on voulait pas y être, mais on y est, et donc faut s'en sortir. La saison est encore longue aujourd'hui où on part, mais il faut s'en sortir.
Non, déjà d'une, on a cette année un championnat hyper intense. Ouais. Les équipes qui vont enchaîner les séries.
C'est ça, moi je me dis, c'est là où je me dis que je me rassure, c'est que nous on n'a pas eu notre série encore.
Voilà, c'est hyper compliqué et il faut aller le chercher parce que, voilà, que ce soit le haut de tableau comme le bas de tableau, ça joue souvent sur 5, 6, 7, voire 7 équipes.
Mais ouais. ce qui est... Tout peut aller très vite dans les deux sens.
Fais deux défaites de suite, t'es dans le wagon. Mais ce qui est fort.
T'en gagnes deux de suite, tu remontes aussi.
Exactement, mais c'est un parc d'attraction le championnat cette année-là. Betclic et Ligue, c'est un parc d'attraction. Ouais. Et ce qui est bon, tu vois, encore une fois, je vais. Parce que je suis quand même venu voir. J'ai été. Nanterre m'a invité pour venir vous voir contre Limoges. J'ai vu une équipe de Nanterre. C'était pas une bête blessée. Mais ils avaient le couteau entre les dents. L'intensité,
il y a eu un truc qui s'est passé. En gros, on venait d'enchaîner défaites contre Dijon avec une manière douteuse, très douteuse. Défaites contre Le Portel, défaites à Gravelines, où là on en avait pris une bonne, une 30 et quelques, pris une bonne à Gravelines. Et avant de recevoir Limoges, on jouait le vendredi à Gravelines dans le bus. Je regarde avec Bastien, parce que c'est notre capitaine, Bastien, et je lui dis, gros, il faudrait qu'on fasse un truc entre nous. Qu'on parte, qu'on aille faire quelque chose un soir, mais qu'on fasse un truc que nous les joueurs. Mmh. Parce qu'il faudrait qu'on retrouve un peu ce qu'on avait au début d'année, l'entente, que ce soit sur le terrain, en dehors, qu'on retrouve ce qu'on avait vraiment au début d'année. Et du coup, comme lui, il est sur Paris un peu plus longtemps que moi, je dis vas-y, gros, qu'on essaye de organiser un petit truc, qu'on essaye d'organiser quelque chose. On trouve un petit truc à faire, machin, on s'organise ça. Du coup, le mardi soir, la fin de l'entraînement, on part faire un petit truc, on va manger un resto, après on est parti faire des jeux entre nous. Et comme c'est moi qui avais été un peu, moi qui avais dit un peu de faire ça, mais c'est Bastien qui a organisé, j'ai dit, les gars, le dîner est pour moi. Voilà, j'ai dit, le dîner c'est pour moi, je vous prends. Quand on voit qu'un souci, c'est, voilà, on en avait besoin et tout, j'ai pas l'initiative, je prends le dîner. Du coup, c'est moi qui paye le dîner. Et puis, dès le mercredi à l'entraînement, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, tu vois. On sent qu'il y a un truc, on voit que l'entraînement, c'était... on n'avait pas fait un aussi bon entraînement depuis longtemps. Donc il y a ça, et puis on arrive le samedi, on voit ce qui s'est passé samedi sur le terrain. Et du coup, voilà, ça nous avait fait du bien aussi. C'est ça aussi qui a fait que tu t'es comme tu as vu ce que tu as vu le samedi, ça a tout changé quoi. On est passé du vendredi du vendredi à Gravelines où c'était une catastrophe au samedi contre Limoges, on se dit mais putain en fait on est une équipe de basket quoi. On se joue au basket et
sacrée équipe de basket. Ça s'est vu à l'engouement du public hein.
Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs tu as souligné c'est peut-être très tard en podcast mais c'est ce pour écouter jusque là mais qui nous soutient alors qu'on n'avait pas gagné à domicile depuis novembre ou octobre même, je sais plus, octobre, fin octobre, peut-être début novembre, n'avait plus gagné à domicile depuis ce moment-là. D'avoir fait ça le plein à ce moment-là contre Limoges, c'était incroyable.
Tu me fatigues un peu en fait, Benjamin. tu me facilites mon podcast en fait aujourd'hui. tu m'assures mes transitions, mais si je te dis 11 278.
C'est pour l'instant ce qu'on a pour l'arena. J'ai été tagué sur un truc par le club tout à l'heure pour que je te réponde d'ailleurs.
Ah, 11 278 places vendues à la U-Arena
ouais.
pour la réception ouais. d'Asvel. Nanterre 92 ouais. Asvel. Ça va être le feu.
Ouais. On a fait d'ailleurs, on est allé voir l'arena la semaine dernière.
Ouais.
Il y avait un entraînement de rugby, donc on a échangé un peu avec les joueurs de rugby, mais du coup on a vu l'arena et tout, c'est impressionnant quand même.
C'est impressionnant.
Ouais, ouais.
En tout cas, hey,
ah, ça va être quelque chose, ça va être quelque chose.
Cher auditeur, chère auditrice, si vous n'avez pas pris vos places encore pour ce match, je vous invite à le faire rapidement parce que ça va être guichet fermé. Et il faudra pas regretter, parce que en plus de ça, j'ai envie de le dire. Nanterre ne fait pas les choses à moitié. Parce que, faut le dire clairement, ils feront pas les choses à moitié. Pourquoi ? Un grand match, un nouveau record, et l'occasion de fêter quelque chose, et pas n'importe quoi. Les 10 ans du titre de champion de France de Nanterre 92. Ça, sans histoire, notre championnat aérien, et Nanterre 92 fait partie de l'histoire de notre championnat. Et ce titre-là...
Ouais.
Ce titre-là, parce que Nanterre est arrivé comme un petit poussé,
c'est le premier plus fou,
pesant d'or. Avec des joueurs, avec des Stéphane Brun. D'autres qui seront là pour fêter ce moment-là. Parce qu'il y aura plein de surprises. Parce que j'ai envie de vous l'annoncer quand même. Celui qui va assurer le podcast pour fêter ses 10 ans, c'est moi. C'est moi. Et en face... Nanterre va jouer contre l'un de ses champions. Qui donc ? David Laïti. David Laïti était là pour ce titre-là. Donc, tu t'imagines ? À l'image de toi qui est là depuis pas mal de temps en pro, on voit David Laïti aujourd'hui et on se dit qu'il était déjà là pour le titre. Donc, quelque chose de très 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 lourd à la U-Arena. Donc, je le répète et je le redis encore une fois. Dépêchez-vous pour prendre vos places. Ça va être le feu. Et en plus, un Benjamin Senn à la main. Wow.
C'est ça.
Tu connais. Benjamin.
Exactement.
On va s'attarder.
Après, si je dois rajouter juste un truc, c'est un peu par rapport à ma carrière, parce que je pense que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est assez important.
Les jeunes vont l'écouter, il faut que tu le dises.
Il faut savoir un truc qui a sûrement changé ma carrière. Dans mon année à Nancy, la dernière, quand je descends, où mentalement, moralement, je devais être au plus bas, c'était super compliqué, j'ai pris un coach mental et ça a tout changé pour moi. Du coup, ça fait depuis cette année-là que je travaille avec lui jusqu'à encore aujourd'hui. Donc, je travaille avec lui tout le temps.
Je peux savoir son nom.
Je ne sais pas si vous voulez qu'on le dise, mais il s'appelle Jean-Christophe. Mais il est de Nancy aussi, en fait, j'avais rencontré sur Nancy.
J'en ai entendu parler un peu.
Et du coup, c'est vrai que voilà, je travaille avec lui depuis cette année-là, donc ça va faire, je sais pas, peut-être 6, 7 ans bientôt. Et ça a tout changé. Donc c'est vrai que là, j'en parlais récemment quand je suis rentré chez moi avec un athlète qui a été médaillé aux Jeux Olympiques.
Mm-hmm.
Pour au canoë et kayak, donc c'est pas du basket, hein, mais qui a été médaillé olympique au canoë.
Ah, c'est et,
ouais, et qui est passé chez moi du coup et qui se lançait un peu dans ce genre de choses de préparation mentale pour les sportifs. Et c'est vrai que donc du coup on en discutait un petit peu, vu que moi je travaillais avec quelqu'un là sur ça. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que je dis que pour les jeunes ça peut être important, parce que au jour d'aujourd'hui, moi-même, si j'avais pu. Le truc c'est que j'aurais pu, donc c'est un peu ce que je regrette, mais si au jour d'aujourd'hui, si je pouvais parler au moi qui venait d'arriver à Nancy, parce que la personne avec qui je travaille en tant que coach, coach mental, en fait, venait à Nancy, venait au centre de formation, et on pouvait aller le voir, mais je n'y allais jamais à l'époque. Et au jour d'aujourd'hui, si je vais parler au moi qui avait 15 ans, qui venait d'arriver à Nancy, je lui dirais, va le voir tous les samedis.
Ah ouais.
Il venait tous les samedis matin, je dirais, va le voir.
Ça, c'est un conseil.
Et va parler.
C'est un conseil très très fort, ça.
Parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, toutes les semaines, j'ai mes rendez-vous, on a même nos habitudes, c'est tous les mercredis soirs. Voilà, ça dure 30 minutes, c'est un appel. Voilà, en plus ça prend 30 minutes. C'est pas un truc qui dure pendant 3 heures.
Mm-hmm.
C'est 30 minutes.
C'est pas rébarbatif.
Où on parle, voilà. Et pour la préparation mentale, après voilà, c'est des discussions qui sont très ciblées sur le joueur. Donc c'est chacun aura des discussions différentes parce que chaque joueur peut être différent dans son approche des choses mentales. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment... si jamais il y a des soucis, des doutes, des machins dans, qui peut arriver à n'importe quel joueur, n'importe quel sportif, ne pas hésiter. Donc, il y a de, voilà, de, dans l'entourage des coach mental. J'en connais deux, du coup. Donc, s'il y a... voilà, s'il y a besoin, on peut venir me poser la question. Je connais deux personnes, du coup, là-dessus qui,
moi, j'en connais
qui sont habilitées à faire aussi, ça.
Qui est habilité.
Et voilà, moi, c'est des appels par sur FaceTime. Donc, c'est... ça peut se faire de n'importe où, avec n'importe qui. Et voilà, bah, ne surtout pas hésiter, parce que c'est un truc qui a quand même vraiment changé ma carrière, qui m'a beaucoup aidé, et je sais que je m'en servirai jusqu'à la fin de ma carrière.
Donc tu confirmes l'importance de l'approche mentale dans le sport du haut niveau.
Ouais. Oh oui, parce que à un moment donné, on a tous des qualités, si on est pro, c'est parce qu'on a tous des qualités de basketteur, de sportif, d'athlète. Mais ce qui fait te différencier par rapport aux autres, c'est mentalement. Si t'es assez fort mentalement ou pas. Et moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à me relever des périodes difficiles que j'ai pu avoir.
Je te suis totalement, je te suis totalement. Une dernière question avant de te libérer.
Yes.
T'es dans une super bonne dynamique. Ton retour en équipe de France.
Ah ben moi là la fenêtre en novembre que j'ai fait du coup mois de novembre.
Ouais.
Je vais être très honnête, je ne m'y attendais absolument pas. Parce que je voyais les fenêtres qui se faisaient depuis plusieurs années. Mm-hmm. Je voyais que voilà, c'était assez souvent quand même les mêmes joueurs qui allaient et tout ça. Donc bon, ouais, je me suis dit peut-être un jour ça se trouve, je pourrais peut-être me faire ma petite place, mais avec les années qui passent et voir que bah, c'est très souvent les mêmes. C'était un peu un truc qui m'était sorti de la tête, en gros. C'était plus que... voilà, je me concentrais sur ce que je fais dans le club où je suis, à donner le meilleur de moi-même, à être la meilleure version de moi-même possible. Mais voilà, je m'attendais pas à grand-chose. Et c'est vrai que quand Pascal était venu me le dire, il me l'a dit le jour où c'est sorti, mais une heure avant. Une heure ou deux heures avant. J'ai juste eu deux heures avant. Mais... super agréablement surpris, mais du coup j'en étais vraiment super content, super fier et super content d'avoir pu faire cette fenêtre. J'ai passé une semaine de fou avec les gars, le groupe qu'on avait, c'était vraiment non, c'était incroyable, c'était vraiment super. Moi j'ai passé une semaine de fou, représenter la France pour faire des matchs internationaux,
des matchs en jeu, ouais. Clairement.
D'ailleurs, les enjeux, tout a été respecté. On s'est qualifié pour la Coupe du Monde, donc c'était.
Mission accomplie.
Exactement. Donc, non, c'était retourner l'équipe de France qui est vraiment super. C'était très inattendu, mais voilà, j'ai saisi l'occasion à fond et super content. Exactement.
Une belle surprise. Allez, je te mets dans une situation. Je te mets dans une situation pour clôturer notre soirée. Tu es coach, tu es coach Benjamin. Et il y a un jeune qui vient te voir et qui dit « Coach, j'ai envie d'être joueur pro. » Qu'est-ce que tu lui dirais ?
Déjà, pour être joueur pro, il faut travailler. Travailler sans relâche. Quand même travailler, mais savoir écouter son corps. Parce que moi, avec le temps, je me rends compte que c'est bien de travailler très dur. Mais si le corps a du mal à suivre, blessure et tout ça, donc ça te retarde, quoi qu'il arrive. Mais travailler, y croire quoi qu'il arrive, parce qu'il va y avoir des moments de doute, des moments de « Ah, peut-être je suis pas sûr, je sais pas, ça peut arriver. » Y croire, à fond. Ne jamais rien lâcher, comme j'aime dire, dans les moments difficiles qui peuvent arriver, ne jamais lâcher. Et surtout, c'est peut-être le plus important de tout, prendre du plaisir. Ah. Parce que si on prend pas du plaisir dans ce qu'on fait,
ça servira.
Autant pas le faire. Autant ne pas le faire.
Clairement, je suis
surtout prendre du plaisir.
Je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense que c'est la meilleure des manières de pouvoir s'arrêter sur ce podcast d'Off Court avec ce conseil fait donner à ces jeunes qui te regardent et qui te regarderont et, ouais. et qui cesseront de se, ne cesseront de soutenir la Nanterre 92, de, qui ne cesseront de soutenir des joueurs qui sont si communicants avec le public. Parce que il faut le dire, t'es toujours là à la fin, à faire des photos, à serrer la main des publics, tout ça. Donc franchement, ça c'est top. Et comme l'a dit un peu au dernier épisode d'Antoine Eto, être professionnel, ce n'est pas juste jouer au ballon. C'est aussi donner au public, être proche de ceux qui nous soutiennent. Et la famille de Nanterre qui vous supporte est magnifique. Elle est juste magnifique. Et rien que pour ça, je leur fais un big up. Je leur fais un big up et continuez à soutenir votre équipe parce que vous êtes tout pour eux.
Exactement.
Donc voilà, merci beaucoup Benjamin de ta participation.
Ouais, c'est avec plaisir.
De t'être,
c'est
livré, avec plaisir. De t'être livré à cœur ouvert comme ça, en toute simplicité. C'est ce qui fait un peu la magie d'Off-Court ouais. et c'est ce qui fait que je kiffe solliciter encore des joueurs parce que notre basket français a pas mal de belles choses à montrer et il faut continuer à partager. Donc je te remercie, je te souhaite une bonne fin de deuxième partie de championnat. Remontez-moi,
ouais, merci beaucoup.
Remontez-moi tout ça, je te souhaite la santé
ouais.
et je te dis rendez-vous au 12 mars à la U Arena.
Ouais.
C'était Smooth Smooth l'artificier et Benjamin Sen pour Off Court. Salut, c'est fini.
Okay. 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 On va la faire courte. Off courte. Le podcast des basketteurs. Ah bon, ça se bouscule sur le terrain, sur le banc et aussi à l'extérieur. Découvre la face cachée du basket à base de clash entre les joueurs, coach, bizutage rookie, vision politique et sociétale et j'en passe. Off courte. Présenté par Smooth Smooth, là, qui vous montre qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur et qu'il a des choses à dire. J'espère que t'es ready pour Off Court. Off Court.